Quédin, dimanche 28 juillet. Bon ben, j'ai encore changé d'adresse. Me voilà à Lille. De là, Redouane Faïd est arrivé à mettre les voiles. Comme je n'ai pas son réseau, je pense pas pouvoir sortir du quartier disciplinaire avant le 20 août, et d'ici avant le 20 septembre, après le procès d'Arras. Pour résumer l'histoire, mercredi, ils ont amené K, une fille que je connais à peine, avec l'équipement anti-émeute que je me croyais réservé. Elle était super énervée, même quand ils sont partis. Elle gueulait toute seule, à coups de « je m'en fous, bande de salopes, je vais aller à l'hosto » et tapait sa fenêtre comme une sourde. Elle ne me répondait pas et les a envoyés chier quand ils ont ramené la gamelle.
Mais enfin, vers 3 heures, elle a eu une demande claire. Elle voulait aller au téléphone pour appeler SOS Amitié. Ça aurait été le moyen qu'elle discute, mais ils ont botté en touche à coups de « on verra plus tard ». Bref, elle a bouché les chiottes et a déclenché la chasse d'eau une centaine de fois. Au bout d'une demi-heure, nos deux cellules et le couloir étaient noyés. Quand je leur ai dit à l'interphone, d'un seul coup, ils ont été disponibles. Ils m'ont collé en promenade avec mon courrier et ont nettoyé ma cellule. Mais elle, ils ne lui ont pas ouvert, ces cons. Je leur ai dit ce que je pensais de leur méthode et ils m'ont répondu qu'elle avait les mêmes que moi. À 17h30, quand ils m'ont ouvert pour rentrer, je leur ai dit que j'avais un devoir de solidarité et que je ne rentrerais pas tant que K n'aurait pas ses lunettes, son tabac, ses bouquins et les couvertures qu'ils étaient venus lui prendre avec les casquets à 16h. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'équipe. Alors je leur ai dit que j'attendrais dans la cour qu'elle arrive. Je pensais voir débarquer les casquets pour me remettre en cellule, mais ils ne sont revenus qu'à 4, dont le directeur Mathieu. Le chef du quartier des femmes, Vatel, m'a dit qu'il n'avait rien pu lui donner car elle était trop énervée. Comme je n'ai pas de raison de le croire, j'ai crié pour appeler K. Mathieu m'a dit « Vous parlerez mieux à la porte ». Je pensais que c'était pour me faire rentrer, mais j'ai accepté, car j'espérais qu'elle serait d'accord pour m'écouter. Ils m'ont même ouvert la porte et j'ai tenté de lui parler à travers la grille. Mais elle était super énervée, criant et tapant la fenêtre, inaccessible à la moindre discussion, murée dans sa colère et sa douleur. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle pense au bébé dans le bâtiment, elle a gueulé « Le mien de bébé, il est au cimetière !» Je ne pouvais rien faire. J'en étais dégoûtée et j'ai accepté de rentrer dans ma cellule. Je savais qu'elle cherchait à aller en HP et ça me rendait très triste de la voir se détruire.
À 18h30, ils sont venus, équipés pour la menotter, et bien qu'ils en aient trop fait, elle n'a pas réagi violemment. En fait, elle était contente d'aller à l'hosto. Mathieu m'a confirmé que j'aurais le téléphone le lendemain avec ma famille. Vers 23h, ils l'ont ramenée. Mais ces salauds l'ont remise dans sa cellule pleine d'eau sale, sans couverture ni tabac. Je les ai suppliés de la mettre en cellule propre ou de me laisser passer la raclette, mais rien à faire. C'est vrai qu'elle était assez calme, à cause de la piqûre, mais de m'entendre m'énerver, l'a remontée. Et c'est reparti pour une heure de tapage au milieu de la nuit, pour réveiller tout le bâtiment. Ce salaud de chef qui avait refusé de l'accueillir proprement est venu voir. Il s'est fait envoyer paître. Puis, entre minuit et une heure, la fatigue l'a gagnée. Et elle s'est calmée. Moi, j'ai peu dormi, entre colère et tristesse.
Le lendemain, jeudi donc, j'ai expliqué dès 8h aux surveillantes qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça, qu'il fallait au moins lui apporter un café chaud et que je lui passais du tabac. Elles ont compris, mais se sont réfugiées derrière le sempiternel. On ne peut rien faire sans ordre du chef, qui n'arrive qu'à 9h. Alors je leur ai mis 9h comme ultimatum, mais à 9h, rien. Comme c'était plus calme depuis 5h du mat, je lisais un récit d'un espagnol des années 80-90 qui racontait les revendications soutenues par des séquestrations de matons. Alors j'ai dit à l'interphone « Vous vous en foutez hein, quand on vous parle calmement. Eh bien venez avec vos boucliers pour la promenade parce qu'il y a de la prise d'otages dans l'air. » Bien sûr, je n'ai aucun moyen de prendre qui que ce soit en otage. Ils sont toujours plus nombreux que moi et je n'ai pas d'armes. Mais s'ils venaient équipés, ils n'auraient pas d'excuse de ne pas sortir K, le temps de nettoyer sa cellule. J'ai renouvelé la menace à 10h quand j'ai demandé quand était ma promenade à l'interphone et que la matone a dit « Ça sert à rien de crier. » J'ai crié « Non, ça ne sert à rien de crier, mais ça sert à rien non plus de parler. Il n'y a qu'avec une prise d'otage que vous nous écouterez. »
À 10h30, ils sont venus à 4, dont Vatel et le Toubib. Cal a envoyé chier. Moi, je l'ai engueulé de sa complicité face à la maltraitance que subissait K. Il en a vite eu marre et est ressorti. Je l'ai suivi dans le couloir où étaient les bleus pour continuer à lui dire qu'on chopait des mycoses les pieds dans l'eau et qu'elle n'avait rien mangé depuis 24 heures. Quand il s'est approché de la porte pour sortir du quartier disciplinaire, j'ai crié en faisant un pas en avant. J'étais au seuil de ma porte. « Hé, toi, tu restes là ! J'ai dit que je faisais une prise d'otage !» La menace était ridicule et je n'avais touché personne. Mais les quatre se sont rués sur moi et j'ai été coincée contre le mur. Je leur ai dit « calme, calme, je ne bouge pas ». Et la pression physique s'est relâchée, mais ils avaient déclenché l'alarme. Quand la cavalerie est arrivée, je bloquais la grille assez facilement et ils étaient quatre à pousser et à se pousser dans le sas. J'avais déjà accepté l'idée de ne pas aller en promenade, mais je voulais la promesse de Vatel que j'aurais le téléphone à 11h. La matone était compressée par ses collègues et ça se voyait qu'elle avait mal. Quand Vatel a promis, j'ai retiré le pied et je suis rentrée.
Toute l'après-midi, j'ai appelé à l'interphone, toutes les demi-heures, pour leur dire de venir avec le toubib, à chaque fois sans crier. J'ai crié pour dire aux filles du bâtiment ce qui se passait ici, mais aucune n'a réagi. Vers 15h15, ils ont enfin amené K à l'UCSA, sur un fauteuil roulant, menotté devant. Elle est revenue un quart d'heure après, avec une ordonnance de radio, sans plus. Il n'avait toujours rien déposé dans sa cellule. À l'heure habituelle de ma promenade de fin d'après-midi, ils ne sont pas venus. J'étais super en colère, mais n'ai rien fait. Dans l'après-midi, je les ai entendus bouger mes cartons dans la cellule d'à côté, et j'avais pensé au transfert, mais vu l'heure qui avançait, je me suis dit que je me faisais des films.
Vers 17h, les casquets sont arrivés. J'ai demandé si j'allais en garde à vue, si je devais prendre tabac et documents, et il m'a dit que ça suivrait. C'est là que j'ai compris qu'on allait à la maison d'arrêt de l'île Séquedin. Ils m'ont menotté dans le dos, et je me suis laissée faire. J'ai quand même gueulé un « Au revoir les filles, je change d'air !» Dans l'équipe du transfert, il y en avait un qui se régalait de me voir entravée, menottée dans le dos et en cellule. À Bapaume, comme ailleurs, j'avais refusé la photo et la prise d'empreinte, et c'était passé. Là, il m'a prise par la gorge et les cheveux contre le mur, et je n'ai pu que fermer les yeux et ouvrir la gueule. Idem pour l'empreinte, à force de torsion du poignet, mais je ne crois pas qu'elle sera utilisable. On n'aura pas mieux, j'ai entendu. Alors que j'avais accepté la fouille à nu à Bapaume, ils m'en ont fait une autre ici. Comme ils étaient nombreux et que des mecs, ils m'ont dit « Tu te mets face au mur et tu ne te retournes pas, c'est bien compris ? Tu te dessapes sans te retourner, c'est clair ?» J'ai obtempéré, pour éviter la palpation, mais j'ai obtenu mon t-shirt avant de retirer le pantalon et n'ai pas tendu mes sandales qu'ils ont dû ramasser eux-mêmes. Puis, traversée de la maison d'arrêt, libre, entre 6 matons d'ici.
Thank you. Béguedin, mardi 30 juillet. Ce matin, vers 10h30, une autre toubibe est venue. Comme son collègue, elle a refusé une consultation honnête. C'est la chef de détention, Sylvie, qui m'a ouvert pour la promenade à 14h30. Je lui ai redit, très calmement, que je ne rentrerai que lors de la visite médicale. J'avais un peu d'espoir, car elle avait géré un conflit qui aurait pu dégénérer le dimanche, alors qu'une brigade refusait que j'amène un livre en promenade, alors que c'était passé avec elle le vendredi et le samedi. J'avais dû bloquer la grille, heureusement, sans blesser. Mais là, quand elle est revenue à 15h30 pour la fin de la promenade, elle avait déjà fait équiper 4 gars avec casque et bouclier. Ça a été l'assaut le plus violent de mon histoire pénitentiaire. Ils m'ont délibérément envoyé plusieurs coups de poing au visage pendant le menottage. Puis, ils m'ont cogné la tête dans chaque angle de mur sur le trajet du mitard. À Joux, l'arcade s'était ouverte et les avait immédiatement calmés. Mais là, elle a tenu. Ils m'ont démenotté sous le lit, en tordant doigts et poignets, comme d'habitude. La douleur est presque passée. J'ai juste une gêne aux doigts tordus. Je sens une bosse au front, mais ne peux pas savoir si c'est devenu bleu. Demain matin, c'est le jour de la douche. J'irai et bloquerai encore au retour s'il n'y a pas de toubib. Je n'ai maintenant plus d'espoir de respect, mais celui que la résine coule, ça les calme très vite et les fait appeler l'UCSA ou le 15.
Séquedin, samedi 3 août. Jusqu'ici, quand je m'affrontais à l'administration pénitentiaire, je risquais des coups et du mitard, mais je pouvais m'appuyer sur la loi pour me garantir une certaine sécurité mentale. Là, il n'y a plus de garde-fous, et ça me fait peur. C'est en partie de ma faute, car j'ai entamé une grève de la faim, alors que je m'étais toujours opposé idéologiquement à ce mode d'action dangereux. Le mercredi matin, c'était le jour de douche et de retour de week-end du chef de bâtiment. Il m'a demandé ce qui s'était passé, et m'a dit de me préparer pour la douche et la promenade. Je lui ai répondu que j'étais tout à fait d'accord, mais que comme la veille, je ne rentrerai volontairement qu'après une visite médicale. Il est reparti, puis est revenu avec un chef plus-plus, en chemise bleu clair. Lui m'a dit que pour aller à la douche, je devais subir la fouille par palpation. J'en ai rigolé tant c'était ridicule. La douche est au quartier disciplinaire et je ne croise aucune fille. En plus, si je ne m'abuse, la loi interdit les fouilles systématiques non justifiées. J'avais, par apaisement, accepté le passage à la poêle électronique, au retour de promenade, jusqu'à la veille. Il a gueulé, palpation ou rien, et est parti en disant que je n'aurais rien ce matin-là.
J'essaye d'avoir quelqu'un à l'interphone à partir de 11h pour la promenade, mais rien. Quand le chef de bâtiment m'apporte la gamelle, il me dit que je verrai le médecin vers 15h. Effectivement, il est là à 14h30. Mais il me dit « Je vais vous examiner dans une salle spécifique, mais des surveillants resteront avec nous. » Je lui réponds très poliment que c'est impossible, que ce sont eux qui m'ont agressé, qu'il doit me faire confiance, que je ne l'agresserai pas et qu'il a le serment d'Hippocrate. Il discute 5 minutes, puis part. Je vous laisse réfléchir. Je l'appelle en pleurs, mais il ne revient pas. Plusieurs fois dans l'après-midi, je demande à la surveillante à l'interphone de m'écouter, de trouver une solution. Ça fait 36 heures que je suis dans la cage, presque nue, car les vêtements ont été mouillés et salis lors de la contention. Malgré la loi, ils me privent de douche, de promenade et visite médicale. Quand le chef amène la gamelle à 18h30, je suis au 36e dessous, dégoûtée par le mépris. Il fait semblant de discuter, mais c'est juste pour que je lui remette le lacet qu'ils m'ont laissé la veille avec une chaussure et ma boîte d'allumettes. Je me calme grâce au courrier des copains reçu de l'alpage, et je remets mon projet de feu à plus tard. Je vais planquer des allumettes et un grattoir.
Le jeudi matin à 7h, je retente de demander calmement un médiateur, mais on me dit juste que la chef viendra plus tard, pour le repas donc. Ça fait 3 jours que je parle très calme, sauf la crise de pleurs mercredi soir mais où je n'ai insulté personne, que j'essaye de trouver des solutions et ils me font tricarde. Je n'ai plus le choix. Malgré les conseils des copains, je dois me faire blesser pour avoir enfin un toubib et lui expliquer. Je fous donc le feu aux barquettes en plastique de 4 repas précédents, sans que ça ne représente un danger pour mes co-détenus et leurs bébés. Bien sûr, ils arrivent équipés pour me foutre dans le mitard d'à côté. Malgré les coups de poing, ça doit être le protocole ici, l'arcade tient bon, et merde. Mes vêtements sont mouillés par l'extincteur, et la cellule complètement vide, sauf le matelas. Je demande mes affaires à l'interphone, qu'il raccroche immédiatement.
À midi et demi, c'est la chef de détention que j'accueille nue. Elle n'a aucune affaire pour moi. Je sais qu'ils peuvent me faire tricarde comme ça jusqu'au 17 août, la date de fin de sanction décidée à Bapaume. Pour accélérer, il faut donc se mettre en grève de la faim. J'y ajoute une grève de la parole, puisque, quoi que je dise, quel que soit le ton, je ne suis pas entendue. Le Toubib et une responsable du service médico-psychologique sont venus me voir vers 17h, alors que je ne les espérais plus. Comme le chef le matin, ils m'expliquent qu'ils n'y peuvent rien, que c'est l'administration pénitentiaire qui décide. Je leur réponds par petit papier que c'est des menteurs, puis mets fin à ce faux entretien à travers la grille. C'est toujours le même chef, à 18h30, qui se pointe pour que je refuse la gamelle. Il aimerait que je lui parle, mais me refuse mon tabac. Par contre, j'ai enfin le reste de mon paquetage resté au mitard à Bapaume. Je sais que je ne verrai rien ni personne cet après-midi, et que ça sera pareil demain. Sauf que ça fera 3 jours que je refuse la gamelle et qu'ils devront prévenir la direction interrégionale. La revendication posée pour l'arrêt de la grève, de la parole et de la faim, c'est que je puisse discuter, dans l'ordre où ils veulent, avec mon avocate par téléphone, un médecin dans des conditions normales de consultation, un représentant de la direction, quel qu'il soit, et même à travers la grille. Je sais par une amie qu'une grève de la faim peut durer 2 semaines avant qu'on soit abîmé, et je tiendrai. À moins qu'il me colle au quartier d'isolement comme à Joux, il faudra qu'il lâche le 17 août quand je serai de retour en bâtiment et en promenade collective. Ça va être long. Salut. Y viva la lucha. On July 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody. Up in cell block number 4, spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun, bang, 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 trying to stop my fun, but there's a riot going on. With your hands up in the air, you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is a hit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. They called the state militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on.
Séquédin, samedi 10 août. Ma situation s'est débloquée jeudi vers 16h. Immédiatement, j'ai mangé le plat de lentilles mis de côté, j'avais de l'espoir, à la gamelle de midi. J'avais repris à parler depuis mardi 14h au premier prémisse. Voilà ce qui s'est passé. Mardi, 5e jour de grève de la faim. Même si le chef du jour est un peu moins con que la brigade du week-end, je n'ai ni promenade ni téléphone. Mais il me passe mon guide de l'Office international des prisons et j'ai la référence des textes qui interdisent la fouille systématique. Je lui fais passer. À 17h30, je vois le Big Boss. Il paraît que c'est exceptionnel qu'il voit un tolard. Et la chef de détention des premiers jours, Sylvie. Il me dit que je verrai dorénavant les médecins correctement s'ils le demandent, et que, puisqu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation de la loi, et que je ne dispose que d'un livre fait par des crétins qui n'y connaissent rien, il va me passer demain les textes en question. En signe d'apaisement, Sylvie me file 2 clopes à elle et me regarde fumer en discutant calmement. Elle m'en laisse aussi une pour le lendemain matin. Moi, je lui donne 2 allumettes coincées dans la poche depuis jeudi. Elles ne me servent à rien, je n'ai pas de grattoir. J'ai aussi les livres de la biblio demandés depuis lundi matin.
À 17h le mercredi, c'est le chef de bâtiment. Il m'allume, bloqué sur sa putain de palpation. Toute la matinée, j'attends des papiers promis par le dirlo en trépignant. À 10h, la même toubib pétocharde qu'hier vient, mais n'ouvre pas la grille, car elle n'aurait pas encore reçu la consigne. À 11h30, ils amènent au mitard une fille en lui faisant mal. Elle est dans le même état que K, et on ne peut pas discuter. À midi, la toubib revient et ouvre la grille. Cette pétocharde s'est faite accompagner par un infirmier bien costaud, mais le rendez-vous est correctement fait. Ils me disent « Mais on ne vous connaît pas !» Ben justement, je les envoie chez la voisine qui hurle qu'elle a mal.
À 16h, le directeur vient enfin avec les papiers. Je lui demande de revenir dans 1 heure, quand je les aurai étudiés. Il me dit qu'il est dans les clous, puisque les fouilles à chaque sortie de cellule des 900 personnes enfermées ici sont justifiées par le risque de trafic. J'aurais aimé manger ce soir, mais je veux pouvoir étudier les textes sans lui laisser mentir. Il dit qu'il reviendra demain. Il paraît que c'est encore plus exceptionnel. 3 rendez-vous comme ça en 3 jours, je suis une VIP. Je lui demande de venir le matin pour manger à midi, mais il reste le big boss et me dit « Je viendrai quand j'aurai le temps. »
Jeudi, le dirlo arrive à 15h30. J'avais préparé mon exposé comme une bonne élève. La seule chose que je sens qui fait mouche, c'est quand je fais, sur le ton de la confidence psy, le parallèle entre palpation et viol, puis viol et autorité, et que j'explique en quoi la fouille à nu, sans contact et où les deux parties sont mal à l'aise, est moins humiliante. Ils se retirent avec Sylvie et reviennent 5 minutes plus tard me dire que je peux aller au téléphone. Je n'ai aucune fouille, il n'y a que la chef de détention et le chef de bâtiment de visible. J'appelle non seulement mon avocate en lui demandant une visite, mais aussi mes parents pour les rassurer. Puis je vais en promenade. Assise torse nu au soleil, je savoure la barquette de lentilles. Ils m'ont aussi donné des allumettes avec le protocole que je leur ai expliqué. Une boîte avec un chiffre donné, puis comptage au retour des brûlés et des souffrés. De retour en cellule, j'ai la barquette. Ça y est, c'est calmé.
À la gamelle, le chef me demande si je suis contente. Je lui explique que je n'ai pas à être contente d'en avoir tant chié pour que la justice règne enfin. Il me dit que j'ai eu raison de parler du tripotage et de ce que je ressentais. Je lui réponds que c'est un discours de voyeur malsain. Il ne comprend pas pourquoi on n'est pas potes. Moi, je mange la moitié de ma gamelle et m'endors le ventre plein dès 19h30. Ouf. L'essentiel pour moi est gagné. Visite du médecin en vis-à-vis et pas de tripotage. J'ai appris aujourd'hui que le dirlo avait pondu une note à mon sujet, disant « Pas d'ouverture de porte, sans une brigarde. Fouille électronique sans contact, mais face au mur. Effectif renforcé lors des promenades, au moins 1 brigard et 6 en tout. Une seule promenade par jour. Contrôle œil-ton toutes les heures en journée et 4 fois la nuit. » Je ne sais pas comment ils comptent revenir à la normale en 1 semaine. Soit ils y arrivent et tant mieux, j'irai en bâtiment. Soit ils vont me coller au quartier d'isolement sans raison, ces salopards.
C'est Quédin, mardi 20 août. Je suis sortie du mitard ce week-end. Pas originaux, ils m'ont collé direct au quartier d'isolement, comme à Joux. Ils ont justifié ça par le dossier disciplinaire. En vrai, ils ne veulent pas que j'aille en bâtiment où les filles, et les mecs aussi d'ailleurs, se font tripoter avant chaque promenade. Ils savent que je refuserai la palpation, et n'ont pas envie de me cogner dessus à 10 contre 1 devant les filles qui pourraient être choquées, et du coup, oh, horreur, solidaire.
Hier lundi, ma voisine de quartier disciplinaire passait au prétoire. Moi, j'étais dans la salle où il y a le téléphone, à 10 mètres. J'ai entendu qu'il la rentrait de force. Elle criait qu'elle avait mal. Forte de l'expérience passée et de la promesse du psy, elle pensait que ça s'arrêterait là, mais ils lui ont mis 30 jours. Devant leur violence, j'ai cogné sur la porte de la salle. Bizarrement, en 4 coups de pied, j'ai fait péter la serrure et me suis retrouvé dans le couloir qui donne d'un côté sur le quartier disciplinaire, de l'autre sur le quartier d'isolement, de l'autre sur la rotonde et l'accès à la grande promenade. Je suis allé vers le quartier disciplinaire où il y avait 6 matones derrière la porte, dont la directrice. Une brigarde moins conne que la moyenne m'a dit « Je t'assure qu'on ne l'a pas cognée, je ne l'ai même pas menottée. » Là, le psychiatre va venir. « Mais toi, on n'a jamais vu ça, et l'alarme a été déclenchée. Regarde, les gars arrivent. Couche-toi au sol, c'est le mieux. » J'ai plutôt confiance en elle, et je l'ai cru. Je me suis retourné vers l'autre bout du couloir. À 20 mètres, derrière la grille, il y avait 5 mecs. Je leur ai crié « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ils m'ont dit « Rentre dans la pièce !» Et je suis retourné calmement dans la salle de téléphone. J'y suis resté presque une minute à les attendre. Je les entendais, de plus en plus nombreux. Je suis ressorti en leur disant « Vous attendez les casqués ? Il n'y a pas besoin. » Ils étaient plus de 20. La chef de détention, Sylvie, a traversé leur groupe et a franchi la grille en leur disant de rester derrière. Elle est venue seule vers moi et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu en une phrase et l'ai tout de suite suivie pour qu'elle me mette en cellule.
Mercredi 21, 7h. Bon, c'est l'équipe de jour qui va prendre leur lait. Cette nuit, ils n'ont rien voulu comprendre. À minuit et demi, ils ont tapé sur la porte au point de réveiller la voisine. 3 fois, ils sont venus, à au moins 5, pour me foutre la lampe torche dans les yeux. Mais ce n'est pas allé à l'affrontement. Bah, du coup, j'ai bien eu le temps d'observer les rats, très nombreux, qui baladent sous la fenêtre, tant la nuit que le jour. 100% des fenêtres de la maison d'arrêt des femmes sont fermées par un grillage, soi-disant pour qu'on ne les nourrisse pas, mais ça ne change rien. Moi, en tant que rurale, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, je vois du vivant sans uniforme. J'aimerais bien essayer d'en apprivoiser un. Je raconterai ça plus tard. À la prochaine, Christine.
Donc voilà, c'était des nouvelles de Christine, qui, comme vous le voyez, ne lâche toujours rien et se bat tout ce qu'elle peut, quoi, contre l'administration pénitentiaire, les matons, et voilà, et on lui souhaite tout le courage et la haine qu'elle peut porter. Donc voilà, et juste pour finir sur ces nouvelles, voilà, elle n'est pas restée très très longtemps au quartier d'isolement. Ils l'ont laissée une semaine, puis ils l'ont refoutue au mitard le 22 août. Cette fois-ci, pour avoir fait valser un vélo dans la salle de sport après s'être vue refuser de passer l'heure de sport avec sa voisine de quartier d'isolement. Et ensuite, fin août, elle est passée en commission de discipline donc pour cette histoire de vélo. Et aussi pour violence aggravée sur les matons, les trucs dont elle parle à l'occasion de son bras de fer avec, pour voir le toubib, quoi. Et donc à ce moment-là, les matons se seraient blessés en cognant Christine et ont donc porté plainte. Donc elle repassera probablement en procès, en plus de ce passage au prétoire. Enfin, en commission discipline ou prétoire, c'est la même chose, pour ces faits-là. Et juste de rappeler donc que le jeudi 19 septembre, il y aura donc le procès qui avait été reporté en juillet.